c'est le temps du sacrifice unique du Christ. La question posée par le cas particulier de la concélébration et de votre suggestion de dire à ce sujet que la multiplication doit se voir du côté de la multiplicité des intentions sacerdotales opérant instrumentalement in persona Christi, la transsubstantiation. Cette formulation même n'indique-t-elle pas que la multiplicité reste amputée en quelque manière du côté de la cause instrumentale et efficiente? Certes, la multiplication demeure, mais cela n'est-ce pas une multiplicité d'actuation du pouvoir sacerdotal, du sacrement de l'ordre en son exercice le plus parfait, l'Eucharistie? Mais du côté de la cause matérielle, un seul pain et une seule coupe. Mais il peut y avoir beaucoup de pain et beaucoup de coupes, vous voyez. Vous pouvez mettre 20 coupes sur le jour. Vous pouvez mettre beaucoup d'hosties. C'est très violent. La multiplicité se prend toujours du côté de la cause formelle et pas de la cause matérielle. Mais ça ne fait rien, je continue. Mais du côté de la cause matérielle, un seul pain et une seule coupe. De la cause formelle, il y a réduction à l'unité. Il n'y a qu'une seule transsubstantiation qui s'opère. Et donc, formellement, une seule réaction, une seule réactualisation par mode sacramentel du sacrifice du Christ. Or, du côté signe, on est bien du côté formel. Enfin, troisièmement, donc, du côté application aux âmes, où l'on prend la finalité du sacrement comme lumière, cela reste un seul. Une seule messe, une seule communion, le fait que le nouveau droit canon stipule la possibilité aux fidèles de communier à chaque messe d'un seul jour, n'apporte-t-il pas une autre raison? Oui. Une autre raison. Oui. Ça reste très difficile. Hein. Je suis d'accord qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. La question de la transsubstantiation. On pourra, je ne vais pas continuer le côté de la concélébration, je veux dire. On pourra peut-être essayer de faire une fois une question disputée là-dessus. Parce que c'est une question sur laquelle on doit... Ceux qui ont le temps de lire le livre du Père... Le bon Père Carme, là, notre Père. Oui, oui. De le lire sur l'Eucharistie, la concélébration, c'est bien. S'il y en avait plusieurs qui pouvaient le lire... Très très bien. On pourrait alors essayer de faire une fois une question disputée là-dessus. Je n'ai pas envie de continuer là-dessus. Vous voyez, trop difficile, trop complexe, mais très intéressant. C'est très intéressant. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Il faut qu'on y réfléchisse. Moi, je demeure dans la position que j'avais dit, les sacrements sont remis à l'Église. Les rites sont remis à l'Église. Ça me semble très difficile de la part du théologien comme tel de pouvoir déterminer. Mais il doit travailler, il doit regarder le plus et le moins. Il doit le faire. Ça, c'est absolument net. Donc, si vous voulez, on fera ça au semestre d'été, une fois on aura un peu plus de temps. On va faire une question disputée là-dessus. Il faut la préparer. Et il y a un chantier. C'est une question qu'il faut avoir un chantier là-dessus. Quand je dis avoir un chantier, c'est-à-dire avoir des questions qui se posent et on se pose à soi-même des questions. C'est bon d'avoir certains chantiers au point de vue théologique. Alors, réfléchissez-y. Mais je n'entre plus dedans, si vous voulez. Je voulais simplement ajouter une question encore avant de regarder le point de vue du sacerdoce. Après l'Eucharistie, c'est le sacerdoce qu'on doit regarder tout de suite. Hein. Il y a une question encore qui m'intéresse beaucoup au point de vue profond. Je remonte à la scène. Quelles sont les intentions du Christ qui anime Jésus à la scène? Les intentions du nouveau législateur. Toujours le parallélisme à faire avec Moïse. Moïse, législateur dans l'Ancien Testament, Jésus, législateur du Nouveau Testament. Bon. Alors, on l'a vu au point de départ, j'y reviens au terme, vous voyez, avant de passer au sujet suivant. Moïse, quand il est sur le mont Sinaï, Il ne nous a pas fait de révélation très particulière, mais l'Écriture nous dit qu'il est dans un état de contemplation. Et beaucoup de pères de l'Église ont dit que Moïse a eu la vision béatifique. Très difficile de le savoir, mais on voit très bien pourquoi ils le disent. Peu importe. Il est face à son Dieu comme un ami est présent à son ami, de bouche à bouche. Donc dans la présence la plus intime, la plus grande. C'est beau, du reste, exprimé, de voir que Moïse, à ce moment-là, est l'ami. L'ami premier, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Mais Moïse est ami, tout en étant législateur. Il est l'ami qui reçoit de Dieu l'étape de la loi. C'est donc dans une contemplation intime, d'amitié, avec son Dieu, qu'il reçoit l'étape de la loi. Et c'est pour cela que le mont Sinaï est enveloppé de la nuée. Ça, c'est net. Et ce lieu est saint parce qu'il y a une proximité de Dieu. Et ça devient une terre sainte et une terre contemplative. Et le mont Sinaï est resté le lieu de la contemplation. Ça, les pères de l'Église ont tout de suite compris ça. Et l'Église a compris ça avec le monastère de Sainte-Catherine qui est là, sur le mont Sinaï. Et qui reste. Et il y a toute une tradition du mont Sinaï. Il y a une spiritualité du mont Sinaï. Saint Jean Clignac. Il ne faut pas l'oublier, l'échelle de perfection. Et il y a quand même quelque chose de très grand qu'il faut essayer de saisir avec le point de vue du mont Sinaï. Jésus reprend tout comme nouveau législateur. Il est mu par l'Esprit Saint. Il est l'ami, en ce sens qu'il est l'agapétos, le bien-aimé, en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là où le Père remet toutes ses complaisances? Quand Jésus doit instituer l'Eucharistie. C'est vraiment, les complaisances du Père iront de l'Eucharistie à la croix, de la croix à l'Eucharistie, vous voyez. Et ça fait partie de ce mystère, le Père met toutes ses complaisances, c'est-à-dire confie tous ses secrets. On met sa complaisance en quelqu'un dans la mesure où on lui confie ses secrets. Et c'est par là qu'on exprime sa complaisance. Donc, vraiment, le Père remet au Fils tous ses secrets. Ses secrets de Père. Le Fils est dans le sein du Père, in sinu patris. Et Jésus, comme législateur, je crois qu'on peut dire à ce moment-là, comme Moïse est dans l'intimité avec Yahvé, on peut dire que le cœur de Moïse est entré dans une intimité, le cœur de Jésus, je veux dire, le cœur de Jésus est entré dans une intimité très particulière avec le Père. Quand il va réaliser ce nouveau geste de législateur, on ne le voit pas assez, ça. C'est pour ça que j'y insiste. Parce que je crois qu'il y a là quelque chose de très important. Il est législateur d'une façon contemplative. Moïse est contemplatif et législateur. On ne peut pas dire que la loi, c'est la loi de la contemplation. Non, c'est la conséquence de la contemplation. Tandis que l'Eucharistie que Jésus va instituer, il est contemplatif. C'est le mystère de la contemplation. C'est le sacrement de la contemplation, l'Eucharistie. Et c'est le sacrement de la contemplation parce que c'est le sacrement de l'amour. Et donc c'est à l'intérieur même de cette intimité avec le Père que Jésus réalise le mystère de l'Eucharistie. Et il a voulu réaliser ce mystère de l'Eucharistie en faisant ce premier geste premier, ce geste d'amour, de pardon, sur lequel nous y reviendrons à propos du sacrement de pénitence, le lavement des pieds. C'est quand même très important. Le lavement des pieds qui sépare les deux Pâques et qui montre tout l'abîme qui existe entre la première Pâque et la seconde Pâque et qui montre l'exigence d'une nouvelle pureté. Une nouvelle pureté qui est donnée en surabondance par le lavement des pieds. Quand on a pris un bain, on est tout pur. Il n'y a plus qu'à la surabondance. Et ceux qui ont reçu la parole de Dieu sont déjà purs, mais il y a une pureté nouvelle qui est la pureté des sacrements. La pureté des sacrements est une pureté nouvelle, parce que c'est une pureté qui vient directement du Christ crucifié. C'est une pureté qui n'est plus uniquement une pureté dans l'ordre de la foi, c'est une pureté dans l'ordre de l'amour. Je crois qu'il y a la question, quelque chose de nouveau, une surabondance de pureté qui nous est donnée à travers le lavement des pieds. J'aimerais me poser la question, dans cette intimité la plus grande avec le Père, comme législateur d'amour, donc comme législateur contemplatif, Jésus institue l'Eucharistie. Il institue l'Eucharistie pour les hommes, propter homines. Nous ne pouvons pas scruter les intentions profondes du cœur de Jésus, mais nous pouvons les découvrir. Quelle est l'intention première du cœur de Jésus en instituant l'Eucharistie? Je me pose la question. J'ai le droit de me la poser, et même le devoir au point de vue théologique, n'est-ce pas, de me poser la question, quelle est l'intention première du cœur de Jésus en instituant l'Eucharistie? C'est-à-dire, quelle est l'intention profonde de ce législateur d'amour qui veut laisser son testament comme un testament d'amour, qui veut laisser le signe du suprême amour pour nous. Et ce signe de ce suprême amour, c'est de se donner comme pain, et c'est de se donner comme vin. C'est le signe du suprême amour. Alors, je crois que son intention, c'est de remercier sa mère du service de sa maternité. Autrement dit, il faut essayer de comprendre, en théologie mystique, le lien qui existe entre l'institution de l'Eucharistie et la maternité selon la chair et le sang de Marie. Cette maternité est une maternité contemplative, mais une maternité qui implique un service. Quand on sert Dieu, quand on fait un service pour Dieu, le moindre petit service pour Dieu, Dieu nous donne toujours le centuple. Toujours. Alors, Marie est servante dans sa maternité divine. Un service substantiel. On sait très bien que le service de la mère est un service unique. Personne ne peut le remplacer. La technique d'aujourd'hui voudrait beaucoup remplacer le service maternel. On voudrait diminuer par là le service maternel et le remplacer par la technique. Si on pouvait faire des couveuses électriques, on les ferait. Si on pouvait faire des couveuses électriques au niveau de la, vraiment de la gestation, de la formation du corps de l'enfant. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, on diminuerait la nature. Tout l'effort de la technique, hein, c'est de fait, depuis Occam, c'est de diminuer la nature, c'est de la supprimer. Et de voir que, de fait, la technique peut remplacer la nature. Or, heureusement qu'il y a la cause matérielle. Et la cause matérielle, on ne pourra jamais la remplacer. La technique peut remplacer la cause efficiente. La technique peut remplacer la cause formelle, mais pas la cause matérielle. La cause matérielle, jamais. Parce que dans la cause matérielle, il y a le vestige de l'infini de Dieu. C'est le propre de la cause matérielle. C'est de contenir un vestige de l'infini de Dieu. De l'infini substantiel de Dieu. Et cela, jamais on pourra le remplacer. Ça, c'est la limite de la technique, la cause matérielle. C'est pour ça qu'on n'aime pas la cause matérielle et qu'on veut remplacer la cause matérielle par la cause formelle. C'est du Teilhard, ça. Teilhard veut que la cause matérielle ne soit plus une cause matérielle et qu'on puisse tout simplement transformer la matière en esprit. Et à ce moment-là, il n'y a plus de matière. Il n'y a plus que la cause formelle. Il faut bien comprendre la subtilité du démon, hein. Il s'appelle de divers noms, ça importe peu, mais il se sert de théologiens de noms multiples, qu'ils soient jésuites ou dominicains, mais ça n'a pas d'importance, mais il se sert de ces noms-là. Et à fond, c'est de supprimer la cause matérielle. Il y a une espèce de haine du démon vis-à-vis de la cause matérielle. Et ça, je crois qu'il faut la sentir théologiquement, parce que nous assistons peut-être à cette grande lutte. Le démon ne peut pas tolérer la cause matérielle, parce que Dieu s'est servi de la cause matérielle pour pouvoir faire que la transmission de la vie puisse se faire par la créature. S'il n'y avait pas la cause matérielle, la transmission de la vie ne pourrait pas se faire par une créature. Pour qu'une créature soit féconde, selon la chair et le sang, il faut la cause matérielle. Les anges ne sont pas engendrants d'autres anges. Ils ont des qualités supérieures au point de vue de l'esprit, au point de vue de la cause formelle, mais non pas la cause matérielle. Il ne faut pas l'oublier. Et la cause matérielle est un avoir que Dieu nous confie. C'est très encombrant, mais c'est un avoir. Et on sait très bien que si Dieu l'a permis, c'est pour qu'il y ait justement cette fécondité selon la chair et le sang. La maternité est un service substantiel. Quand je dis substantiel, c'est-à-dire fondamental et premier. De sorte que jamais un fils ne pourra remercier assez sa mère comme fils. Il est toujours débiteur. Il est radicalement débiteur. Le plus grand service qui existe dans l'humanité, c'est la maternité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne veut plus le service. On est contre la maternité. C'est bien évident. Parce qu'on ne veut plus le service. Or, la mère, c'est la servante par excellence. C'est la servante qui va le plus loin possible dans cet ordre du service. On ne peut pas la remplacer. Ce n'est pas un service par contrat. C'est un service qui est au-delà de la justice. Le contrat met une note de justice dans le service. Hein. Tandis que lorsqu'il s'agit de la maternité, c'est quelque chose de tellement fondamental, tellement substantiel, de premier, ça peut pas. Donc jamais le fils ne pourra remercier sa mère du service qu'il lui a donné. Un fils ou une fille, hein, ne pourront jamais remercier leur mère avec adéquatement. C'est impossible. Parce que notre remerciement est d'ordre intentionnel, au point de vue humain, où il peut se concrétiser dans une œuvre. On peut construire une maison pour sa mère qui vieillit, c'est une manière de la remercier. On peut se faire son serviteur, c'est une manière de la remercier. C'est une manière de se faire cuisiner pour elle parce qu'elle ne peut plus, et de lui servir les petits déjeuners quand elle ne peut plus parce qu'elle est trop fatiguée. C'est une manière de la remercier, mais c'est toujours intentionnel. Ce n'est pas un service substantiel. C'est bien évident. Seul, alors nous le verrons, seul dans l'ordre surnaturel, on peut remercier sa mère. Le prêtre, quand il bénit sa mère, ayant reçu le sacerdoce, peut, par le Christ, donner à sa mère le centuple de ce que sa mère lui a donné. Dans l'ordre surnaturel. C'est pour ça qu'on pourrait être prêtre uniquement pour remercier sa mère. Ce serait beau. Hein, évidemment, si on donnait ça comme motif, je ne sais pas ce qu'on dirait dans la catéchèse d'aujourd'hui, ou la pastorale d'aujourd'hui. On dirait, ce n'est pas un motif suffisant. Je ne sais pas. Je me pose la question, point d'interrogation. Pour pouvoir donner à sa mère le remerciement qu'on ne peut pas donner autrement. Vous allez dire, une fille ne peut pas avoir le sacerdoce, ne peut pas le remercier, par sa contemplation. C'est le sacerdoce royal des fidèles. Ah, vous voyez alors, vous avez le sacerdoce ministériel et le sacerdoce royal. Et dans le sacerdoce royal des fidèles, une fille peut, par sa contemplation, remercier sa mère du service qu'elle lui a donné. Elle est contemplative. Et en étant contemplative, elle finalise la maternité divinement. Elle donne à la maternité humaine son sens dernier, son sens ultime, au plan surnaturel. Hein. Au plan naturel, c'est impossible. Parce qu'au plan naturel, en disant « Maman, je t'aime beaucoup, alors pour montrer combien je te remercie, je vais me marier pour continuer comme toi. » Eh bien, ça, c'est pas un remerciement, vous comprenez. C'est tout simplement le fait, c'est le remerciement cyclique dans l'ordre de l'immanence. C'est pas un dépassement. Pour remercier, il faut un dépassement. Il faut aller plus loin que ce qu'on nous a donné. Or, on ne peut pas dépasser le service substantiel de la maternité. On ne peut le dépasser que divinement, par la contemplation et par le sacerdoce. La bénédiction à l'égard de sa mère et l'offrande du sacrifice de la messe. Bon, ça, c'est important de le saisir. Nous pouvons le saisir. C'est une chose qui nous est d'ordre expérimental. Jésus est plus fils que nous. Jésus a vis-à-vis de Marie un lien plus intime et plus profond que le fils le plus aimant à l'égard de sa mère la plus aimante. Il n'y a jamais eu une filiation aussi vécue et avec une intensité aussi grande. Jamais. Alors Jésus, évidemment, simplement parce qu'il est Dieu, remercie sa mère. Un remerciement ontologique. C'est merveilleux, du reste. Le simple fait que Jésus existe comme fils de Dieu, en qui le Père a mis toutes ses complaisances, il donne à sa mère, voyez, il donne à la maternité de sa mère une finalité unique. Une finalité unique. Cette maternité se termine en Dieu. Donc, puisqu'elle se termine en Dieu, elle entre dans les confins de la très sainte Trinité, comme dit saint Thomas. Elle se termine en Dieu. Se terminant en Dieu, elle donne à la maternité divine de Marie toute sa signification. Et Jésus peut, dès qu'il prend conscience en offrant sa mère, il la remercie. Tout de suite. Le simple acte d'obéissance de Jésus au Père se prolonge dans un remerciement par rapport à sa mère. Le premier acte d'amour de l'enfant Jésus avant sa naissance, dans le sein maternel, pour Marie. Le premier moment où ce tout petit, qui est Dieu, remercie sa mère. Ça, c'est le comble, hein. C'est infiniment plus grand. Mais Jésus peut aller plus loin dans l'ordre de la surabondance. Il peut donner sa chair en nourriture. Il peut donner son sang en nourriture. La chair et le sang qu'il a reçu de Marie, il peut le donner à Marie. Ce n'est plus une chair humaine, c'est la chair d'un Dieu. C'est le sang d'un Dieu. Marie donne sa chair, qui est une chair humaine, toute pure. Et Jésus donne la chair d'un Dieu. Donc, c'est infiniment plus grand. Mais je crois qu'on peut le dire, voyez. Les sacrements ont été institués en premier lieu pour Marie. Et l'Eucharistie a été instituée en premier lieu pour Marie. Selon l'ordre d'intention de perfection, pour remercier, c'est le sacrement de l'action de grâce, l'Eucharistie. Et c'est le sacrement de l'action de grâce du Fils bien-aimé à l'égard de sa mère bien-aimée. Alors ça, c'est très beau, c'est très grand si on creusait ça. Parce qu'alors on comprendrait peut-être mieux encore ce que c'est que la dimension de la famille. Chrétienne, ça n'a pas été développé, je n'ai jamais vu. Si vous avez vu des références dans ce domaine-là, dites-les-moi, ça m'intéresse. Parce que je crois que ce serait très intéressant, étant donné qu'on doit être très attentif à la pastorale de la famille, on doit être très attentif à la théologie de la famille. Eh bien là, il y a une clé qui me semble importante à saisir. Comment le sacrement de l'Eucharistie a été institué en premier lieu. Comme un fils bien-aimé qui remercie sa mère. Qui le remercie comme il peut le remercier. La toute-puissance du Père est au service du sacrement de l'Eucharistie. Et la toute-puissance du Père est au service de ce fils bien-aimé pour remercier sa mère. Et il faut la toute-puissance de Dieu. Voyez, la procréation, c'est l'alliance fondamentale de la femme avec Dieu. C'est l'alliance fondamentale de l'homme et de la femme avec Dieu. Puisque Dieu coopère, Dieu répond. Donc c'est vraiment l'alliance fondamentale et première. À cette alliance fondamentale et première, qui s'est réalisée d'une façon unique en Marie, il y a cette réponse de Jésus pour sa mère, qui est l'Eucharistie. Alors on va dire tout de suite, ah non, Jésus a institué l'Eucharistie en premier lieu pour les apôtres. La preuve, c'est qu'à la scène, il y avait les apôtres. Marie, sans doute, était avec les saintes femmes pour préparer la Pâque. Selon saint Luc, regardez bien le texte de saint Luc, ça semble bien. Tout était préparé. Alors si tout était préparé, il me semble bien que c'était par les saintes femmes et Marie. Je crois que nous pouvons le dire, selon le texte de saint Luc. C'est vrai que le repas pascal, c'est Jésus et les apôtres. C'est vrai que Jésus, comme institution, comme instituant l'Eucharistie, va tout de suite instituer le sacerdoce, comme nous allons le voir, et donc c'est communiquer son sacerdoce ministériel aux apôtres, et non pas à Marie. Mais la finalité de l'Eucharistie va plus loin que le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce ministériel est ordonné à l'Eucharistie, et non pas l'Eucharistie au sacerdoce ministériel. De sorte que l'Eucharistie va plus loin dans sa finalité. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'Eucharistie a été instituée en premier lieu pour Marie, au-delà des apôtres, pour la brebis la plus aimée. C'est bien pour les apôtres, c'est bien évident qu'ils sont là. C'est bien pour toute l'Église, mais il y a un ordre dans la charité. Et comme nous sommes là en présence de cet acte du législateur, il est beau de regarder l'ordre qui existe dans la charité du cœur de Jésus. Et si je regarde l'ordre qui existe dans la charité du cœur de Jésus à la scène, je peux dire que c'est pour Marie en premier lieu, ensuite pour Pierre, même bien ensuite pour Jean. Demandez au Saint-Esprit. Ensuite pour Pierre, ensuite pour tous les apôtres. C'est sûr qu'il y a Marie et Pierre. Quand il s'agit de l'Eucharistie, il y a Marie et Pierre. Alors Jean, dans la mesure où il sera avec Marie, passera avant. Dans l'institution de l'Eucharistie, il n'est pas encore avec Marie. Donc il reste du collège des apôtres. C'est pour ça que je peux dire Marie et Pierre. Ça, c'est sûr, c'est Marie et Pierre. Et alors, il faut regarder ces deux priorités. Et ces deux priorités nous aident à comprendre le point de vue de la finalité des sacrements. C'est à l'égard du mystère de l'Eucharistie que nous devons comprendre la finalité des sacrements, puisque c'est le sacrement par excellence, celui dont on doit saisir pleinement et totalement la finalité. La finalité des sacrements, c'est pour la sainteté de l'Église. C'est pour la sainteté de Marie. Or, Marie ne recevra qu'un seul sacrement. C'est suffisant pour que tous les sacrements soient fondés pour elle. Mais elle ne peut recevoir qu'un seul sacrement. Le sacrement par excellence, l'Eucharistie. Et c'est pour elle. C'est pour sa sainteté. C'est pour que Marie puisse continuer de vivre du mystère de la croix. Marie a vécu pleinement le mystère de la croix dans sa compassion. Mais Marie devait vivre de plus en plus du mystère de la compassion. Parce qu'elle l'a vécu dans sa foi et dans son espérance et son amour. Et par le fait même, elle l'a vécu d'une manière telle qu'elle pouvait en vivre plus. Il fallait donc qu'elle vive de plus en plus du mystère de la compassion et qu'elle entre de plus en plus dans ce mystère de la compassion. Et pour entrer de plus en plus dans ce mystère de la compassion, on comprend, il fallait l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est donc pour que Marie vive de plus en plus du mystère de la compassion. Alors ça donne à l'Eucharistie une finalité très propre. Vous voyez, la sainteté contemplative de Marie à travers le mystère de la compassion. C'est vraiment cela, ce qu'il y a de tout à fait caractéristique dans l'Église. L'Église doit être sainte grâce au mystère de la compassion et vivre le mystère de la compassion à la manière de Marie, à la suite de Marie. C'est vraiment vivre de ce qu'il y a de plus précieux dans l'Église. Et l'Eucharistie est donnée pour cela. L'Eucharistie est donnée en premier lieu pour la vie contemplative. Parce qu'elle est donnée en premier lieu pour Marie. Et donc elle est donnée en premier lieu pour la vie contemplative, pour que la vie contemplative dure dans l'Église et s'intensifie dans l'Église. S'il n'y avait pas l'Eucharistie, la vie contemplative ne pourrait pas durer dans l'Église. parce que la vie contemplative est héroïque. Elle est suprahumaine, donc elle est héroïque. Et parce qu'elle exige une héroïcité, elle réclame l'Eucharistie pour nous maintenir dans cette héroïcité. Vous voyez comment, par là, nous pénétrons plus avant dans la sagesse de Dieu instituant le mystère de l'Eucharistie. Alors, nous comprenons, puisque l'Église doit être contemplative, puisque l'Église, par Marie et en Marie, doit être contemplative, par le mystère de la compassion, on comprend comment il était nécessaire que l'Eucharistie soit instituée. C'est une nécessité impérative pour la contemplation et pour que Marie puisse continuer de vivre ce mystère de la compassion. Alors, ça vous donne la clé, vous voyez, du mystère de l'Eucharistie, puisque ça vous fait comprendre le point de vue de la finalité. Et c'est par le point de vue de la finalité qu'on comprend cet ordre propre des sacrements. C'est de l'ordre de la surabondance de l'amour, et donc là, la finalité est absolument nécessaire. Tant que vous n'avez pas saisi la finalité profonde du mystère de l'Eucharistie, vous ne comprenez pas. Parce que vous restez, selon le point de vue formel, de saisir, au point de vue théologie scientifique, signe et instrument, c'est très très bien, il faut le faire. Mais ce n'est pas ça qui me donne la signification profonde de l'Eucharistie, c'est la finalité. Et c'est en comprenant comment l'Eucharistie est donnée pour que Marie vive et continue de vivre le mystère de la compassion, que nous comprenons alors, autant que nous pouvons, que l'Eucharistie était nécessaire pour l'Église contemplative. Et plus l'Église doit s'enfoncer dans la contemplation de Marie et dans le mystère de la compassion, plus l'Eucharistie devient nécessaire. Et si l'Eucharistie n'est plus vécue de cette manière-là, la contemplation immédiatement diminuera. C'est très important pour le renouveau de l'Église, vous voyez, pour le renouveau de la contemplation dans l'Église. Ce renouveau se fait par un renouveau du sens de l'Eucharistie et de la nécessité de l'Eucharistie pour maintenir la contemplation, pour maintenir cet élan contemplatif et pour vivre du mystère de la compassion. En second lieu, c'est pour Pierre, c'est-à-dire que l'Eucharistie est nécessaire pour que Pierre comprenne ce qu'est le mystère du sacerdoce, ce que nous verrons. Sans l'Eucharistie, je ne peux pas comprendre ce que c'est que le sacerdoce. Et donc, sans l'Eucharistie, je ne peux pas comprendre le sacrement de pénitence. Sans l'Eucharistie, je ne peux pas comprendre tous les autres sacrements. C'est la finalité des sacrements. Il y a une finalité au-delà du sacrement et il y a une finalité interne au sacrement. Il y a une double finalité du sacrement de l'Eucharistie, vous voyez ? La double finalité, il faut bien la distinguer. C'est ce qu'Aristote dit à propos de la finalité. Il y a toujours deux finalités, vous savez, la finalité immanente à l'univers et la finalité extrinsèque à l'univers. Eh bien, vous avez exactement la même chose ici. Vous avez la finalité immanente au sacrement et alors l'Eucharistie est donnée à Pierre pour que Pierre comprenne ce que c'est son sacerdoce. Et l'Eucharistie est donnée, alors ensuite, après la vie contemplative, elle est donnée à l'ordre hiérarchique de l'Église, pour que la hiérarchie demeure ce qu'elle doit être. Parce que l'Eucharistie a une finalité immanente, et la finalité extrinsèque, c'est la contemplation. J'espère que vous voyez bien, et c'est important de saisir les deux, c'est-à-dire les deux aspects de la finalité du mystère de l'Eucharistie. Alors, avec cette finalité immanente, nous entrons dans le mystère du sacerdoce. L'Eucharistie nous conduit au sacerdoce ministériel. Et le sacerdoce ministériel nous fera comprendre le sacerdoce mystique. Et par le sacerdoce ministériel, nous entrerons dans le sacerdoce mystique. C'est important. Vous voyez, on peut y entrer déjà par le mystère de l'Eucharistie. J'allais dire, par le mystère de l'Eucharistie, on entre en premier lieu dans cette maternité contemplative. C'est en premier lieu ça. C'est donc dans le mystère de la fécondité de l'Église. Nous allons ensuite comprendre. Les deux se tiennent, n'est-ce pas ? Nous verrons à ce moment-là. Alors, comprenons ce que l'Église a tout de suite saisi. Jésus, en instituant l'Eucharistie, a voulu continuer la Pâque ancienne. Il l'a prise avec ses disciples. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus donne un ordre. Il donne un ordre que le geste qu'il a fait doit être répété. Faites ceci en mémoire de moi. Alors voyez, en mémoire de moi, ne regarde pas en premier lieu l'Eucharistie, mais le geste du prêtre. Je crois qu'on peut le dire, parce que certains disent que c'est pour l'Eucharistie. Et je ne crois pas, si vous êtes attentif. L'Eucharistie a son sens en elle-même. Mais faites ceci en mémoire de moi, c'est Jésus qui commande à ses apôtres de perpétuer son geste. Et donc la commémoration n'est plus premièrement au niveau de l'Eucharistie, contrairement à ce que certains ont dit. Ceux qui ont suivi le cours sur l'Eucharistie à Fribourg ne savent ce que je veux dire. Ça n'a aucun, ça n'a pas d'importance. Ça tombe dans les oubliettes. Mais autrement, c'était important parce qu'à ce moment-là, ils sont venus me poser la question. Et c'est pour ça que je réponds. C'est important de saisir ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, vous voyez, à dire que c'est quand Jésus dit ça, c'est pour le mystère de la consécration. Non. Pour le mystère de l'Eucharistie proprement dit, non. La Pâque était une commémoration. La nouvelle Pâque n'est plus une commémoration. C'est le sacrement c'est le sacrement de la croix qui est donné. Et c'est prophétique. C'est prophétique, c'est évident. Comme la première Pâque, d'une certaine manière, était prophétique pour le passage de la mer Rouge. N'est-ce pas? Mais la commémoration, faites ceci en mémoire de moi, c'est de demander aux apôtres de continuer son geste. Donc, de comprendre que ce geste de législateur doit demeurer en acte dans l'Église. Et il faut pour cela qu'il y ait des gens aptes à cela. Qu'il y ait pour cela des hommes consacrés à cela. Faites ceci en mémoire de moi. Donc Jésus, en faisant ça, se choisit d'autres législateurs. Ou plus exactement, Jésus, en disant ces paroles, demande aux apôtres de continuer son geste. Ce qui n'a pas existé pour Moïse. Moïse a été le seul à recevoir l'étape de la loi. Moïse a institué ensuite un sacerdoce lévitique. Ça, c'est sûr. Mais Moïse n'a pas eu de successeur. Le seul successeur de Moïse, qui n'est pas un successeur de Moïse, c'est Jésus. Mais il n'est pas le successeur de Moïse, puisqu'il le dépasse. Quand on dépasse quelqu'un, on n'est pas son successeur. On donne la signification à ce qui était de l'ordre de la disposition. Moïse était de l'ordre de la disposition. Il est dépassé par le Christ. Et donc Jésus, législateur, s'explique par lui-même, et non pas par Moïse. Nous pouvons faire la comparaison pour mieux comprendre. Mais ce n'est pas Moïse qui est principe, qui est cause exemplaire du sacerdoce de Jésus. Le Moïse législateur n'est pas cause exemplaire, il est de l'ordre de la disposition. Il n'y a pas eu de successeur de Moïse. Ce qui est très très curieux, c'est quand il s'agit de Jésus, Jésus veut que dans l'ordre de ce testament, il y ait des hommes qui continuent son geste. Ce n'était pas nécessaire, encore une fois. Il faut le dire, ce n'était pas nécessaire. Ce que Luther a très bien compris. Puisque pour Luther, il n'y a pas de sacerdoce, sacrement. Il y a le geste extérieur qu'on continue. Il n'y a pas de sacrement. Et c'est la présence des fidèles, cor unum et anima una, c'est la présence des fidèles à la messe, à la scène, c'est la présence des fidèles qui, par leur foi, fait que le pain, les oblats, le pain et le vin, symbolise la présence de Jésus, symbolise le mystère de la première scène. Mais il n'y a pas de sacerdoce ministériel. Ce sont les fidèles qui, par leur foi et dans leur foi, rendent, non pas présent, si vous voulez, oui, rendent présent symboliquement. Et pas une présence réelle, une présence symbolique. C'est ce que Luther, lui, a compris. C'est intéressant. On portait Thérèse SSC. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours être attentif à ça. Parce que ça prouve que, au point de vue logique, toutes les erreurs proviennent de la logique. Hein, il ne faut pas l'oublier. Toutes les erreurs dans l'Église, hein, les erreurs par rapport à la sagesse de Dieu, proviennent de la logique. L'abbé de Nantes est parfaitement logique. Il est dans l'erreur. Parce qu'il ne voit pas ce que c'est que la sagesse divine. Et alors on suit sa logique. Hein? Les fous sont aussi un excès de logique. Ça fait bien. La folie maintient la logique. Et on ne voit plus que la logique. Alors quand il n'y a plus que la logique, ça devient la folie. L'aspect substantiel et métaphysique est vidé. On ne peut pas être fou en posant le jugement d'existence. Et c'est pour ça qu'on devrait faire une réclame monstre. Hein. Éviter la folie, jugement d'existence. Jetez-vous dans la folie, la logique. Ce serait merveilleux. À ce moment-là, on comprendrait tous ce que ça ferait la différence entre la logique et puis la métaphysique. La logique peut conduire à la folie. Et ça grise l'esprit. Hein. Et donc ça conduit à la folie. Parce que là, on prolonge. Et c'est pour ça que c'est intéressant, hop, portait Thérèse SSC. Toutes les hérésies sont logiques. C'est de la logique, poussée à l'extrême. Parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas de logique au point de vue de la foi. Vous n'avez que des étincelles. Vous n'avez que des étoiles. Mais pas autre chose. Le théologien réunit ces étoiles en disant convenience, c'est pas logique. Convenience, c'est convenable. C'est l'ordre de la sagesse. C'est pas un ordre logique. C'est l'ordre de la sagesse divine. Alors, il m'est révélé quelques lumières. J'essaie de voir les liens entre ces lumières. C'est toute la théologie, essayer de comprendre ce lien familial, mais c'est des convenances. C'est pas plus que ça. C'est pas une nécessité. Je peux prouver la très sainte Trinité. Or, de la simplicité de Dieu, je devrais pouvoir prouver la très sainte Trinité. Je mettrai Dieu est simple, Dieu est amour, donc il est trois. Oui, je prouverai la très sainte Trinité. Dieu est amour, Dieu est simple, donc il y a le mystère de la très sainte, il y a le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, il est un mystère d'amour, donc un mystère de la rédemption et de la croix. Je prouverai tout logiquement. Non, pas du tout. Il n'y a pas de logique. Il y a des conveniences. C'est un ordre de sagesse. C'est une supralogique qui n'est pas logique. La logique est au niveau du conditionnement humain, n'oubliez pas. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être divine. La logique, elle naît à partir du conditionnement humain. Elle est terriblement humaine. C'est pour ça qu'elle est tellement enracinée en nous. Il faut la connaître pour pouvoir la dépasser. Alors, une fois que je connais la logique, je peux la dépasser. Et je peux comprendre ce que c'est que la sagesse. Celui qui ne sait pas ce que c'est que la logique ne la dépassera jamais. Donc, il faut la connaître. Il faut connaître ce que c'est que la logique. Il faut la savoir pour pouvoir la dépasser. Mais la logique est au niveau du conditionnement humain. La logique, elle est fabriquée par l'homme. Si la logique est fabriquée par l'homme, vous comprenez bien qu'elle ne peut pas être divine. C'est impossible. Et donc la révélation, elle est supralogique. Elle n'est pas logique. Et l'erreur de la scolastique, décadente, en cadre, c'est justement de vouloir remplacer l'ordre de la sagesse par un ordre logique. Et c'est ce que nous voyons constamment dans tous ceux qui quittent l'ordre de la sagesse de Dieu. Ils tombent dans un ordre logique, c'est-à-dire dans un ordre qu'ils ont eux-mêmes construit. C'est pour ça qu'ils l'aiment tant, parce que ça vient d'eux. Alors, puisque ça vient d'eux, ça ne peut pas être plus logique que ça. Et donc, ça ne peut pas être plus vrai que cela. Ils diront, c'est logique, donc c'est vrai. Non, c'est logique, ce n'est pas nécessairement vrai. C'est deux choses différentes. La logique peut avoir une certaine vérité, mais vous savez, la vérité de la logique, ce n'est pas lourd. Hein, c'est pas lourd, la vérité de la logique. Ça reste au niveau des êtres de raison. Alors ici, c'est très important de comprendre que, de fait, il n'y a pas un ordre logique, de nécessité logique, entre l'Eucharistie et le mystère du sacerdoce ministériel. Il y a une volonté d'amour